Nous reprenons la lecture du Crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons vers la fin du 10e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Le sens de cette scène éclatait enfin dans l'esprit de Monsieur Gendron. En réalité, sans s'écarter précisément de la vérité, l'agent de la sûreté venait de tenter une des plus perfides expériences de son répertoire, et il jugeait inutile de la pousser plus loin. Il savait désormais ce qu'il avait intérêt à savoir. Après un moment de silence, M. Lecoq tressaillit comme au sortir d'un songe, étirant sa montre. « Mille diables, fit-il, je suis là que je bavarde, et le temps passe. Et Guespin est en prison, remarqua le docteur. « Nous l'en tirerons, monsieur, répondit l'agent de la sûreté, si toutefois il est innocent, car cette fois je tiens mon affaire, mon roman, si vous voulez, et sans la moindre lacune. Il est cependant un fait d'une importance capitale que seul je ne puis expliquer. « Lequel ? Interrogea le père Plantin. « Est-il possible que monsieur de Trémorel eût un intérêt immense à trouver quelque chose, un acte, une lettre, un papier ? Un objet quelconque d'un mince volume caché dans sa propre maison. Oui, répondit le juge de paix, cela est possible. C'est que, reprit Lecoq, il me faudra une certitude. Le père Plantin réfléchit un instant. Eh bien donc, reprit-il, je suis sûr, parfaitement sûr, que si Madame de Trémorel était morte subitement, le comte aurait démoli la maison pour retrouver certains papiers qu'il savait en la possession de sa femme et que j'ai eus, moi, entre les mains. Alors, reprit M. Lecoq, voici le drame. En entrant au Valfeuillu, j'ai été, comme vous, messieurs, frappé de l'affreux désordre de l'appartement. Comme vous, j'ai pensé d'abord que ce désordre était simplement un effet de l'art. Je me trompais. Un examen plus attentif m'en a convaincu. L'assassin, c'est vrai, a tout mis en pièces, brisé les meubles, haché les fauteuils, pour faire croire au passage d'une bande de furieux. Mais au milieu de ces actes de vandalisme prémédités, j'ai pu suivre les traces involontaires d'une exacte, minutieuse et je dirais plus patiente perquisition. Tout semblait, n'est-il pas vrai, mis au pillage au hasard. On avait brisé à coups de hache des meubles qu'on pouvait ouvrir avec la main. On avait enfoncé des tiroirs qui n'étaient pas fermés ou dont la clé était à la serrure. Était-ce de la folie ? Non, car en réalité, il n'est pas un seul endroit pouvant receler une lettre qui n'ait été visitée. Les tiroirs de divers petits meubles avaient été jetés çà et là, mais les espaces étroits qui existent entre la rainure des tiroirs et le corps du meuble avaient été examinés. Et j'en ai eu la preuve en relevant des empreintes de doigts sur la poussière qui s'amassent toujours en ces endroits. Les livres gisaient à terre pêle-mêle, mais tous avaient été secoués, et quelques-uns avec une telle violence que la reliure était arrachée. Nous avons retrouvé toutes les planches de cheminée en place, mais toutes avaient été soulevées. On n'a pas haché les fauteuils de coups d'épée pour le seul plaisir de déchirer les étoffes. On sondait ainsi les sièges. La certitude promptement acquise d'une perquisition acharnée fit d'abord hésiter mes soupçons. Je me disais, d'un côté, les malfaiteurs ont cherché l'argent qui avait été caché, donc il n'était pas de la maison. Mais, observa le docteur, on peut être d'une maison et ignorer la cachette des valeurs. Ainsi, Gaspin ? Permettez, interrompit Monsieur Lecoq, je m'explique. D'un autre côté, je trouvais des indices tels que l'assassin ne pouvait être qu'une personne, singulièrement liée avec Madame de Trémorel, comme son amant ou son mari. Voilà quelles étaient alors mes idées. Et maintenant ? À 7 heures, répondit l'agent, et avec la certitude qu'on a pu chercher autre chose que les valeurs, je ne suis pas fort éloigné de croire que le coupable est l'homme dont on cherche actuellement le cadavre, le comte Hector de Trémorel. Ce nom, le docteur Gendron et le père Plantat l'avaient deviné, mais personne encore n'avait osé formuler les soupçons. Il l'attendait, ce nom de Trémorel, et cependant, jeté ainsi, au milieu de la nuit, dans cette grande pièce sombre, par ce personnage au moins bizarre, il les fit tressaillir d'un indicible effroi. Remarquez, reprit M. Lecoq, que je dis « je crois ». Pour moi, en effet, le crime du comte n'est encore qu'excessivement probable. Voyons si, à nous trois, nous arriverons à une certitude. C'est que, voyez-vous, messieurs, l'enquête d'un crime n'est autre chose que la solution d'un problème. Le crime donné, constant, patent, on commence par en rechercher toutes les circonstances graves ou futiles, les détails, les particularités. Lorsque circonstances et particularités ont été soigneusement recueillies, on les classe, on les met en leur ordre et à leur date. On connaît ainsi la victime. Le crime et les circonstances restent à trouver le troisième terme, l'X, l'inconnu, c'est-à-dire le coupable. La besogne est difficile, mais non tant qu'on croit. Il s'agit de chercher un homme dont la culpabilité explique toutes les circonstances, toutes les particularités relevées, toutes, vous m'entendez bien ? Le rencontre-t-on, cet homme, il est probable. Et 9 fois sur 10, la probabilité devient réalité qu'on tient le coupable. Ainsi, messieurs, procédait Tabaret, mon maître, notre maître à tous, et en toute sa vie, il ne s'est trompé que 3 fois. Si claire avait été l'explication de M. Lecoq, si logique sa démonstration, que le vieux juge et le médecin ne purent retenir une exclamation admirative. « Très bien !» Examinons donc ensemble, poursuivit après s'être incliné l'agent de la sûreté, examinons si la culpabilité hypothétique du comte de Trémorel explique toutes les circonstances du crime de Valfeuillu. Il allait poursuivre, mais le docteur Gendron, assis près de la fenêtre, se dressa brusquement. « On marche dans le jardin, » dit-il. Tout le monde s'approcha. Le temps était superbe, la nuit très claire. Un grand espace libre s'étendait devant les fenêtres de la bibliothèque. On regarda, on ne vit personne. « Vous vous êtes trompé, docteur, » fit le père Plantat en regagnant son fauteuil. Monsieur Lecoq continua. Nous supposons donc, messieurs, que sous l'empire de certains événements que nous aurons à rechercher plus tard, M. de Trémorel a été amené à prendre la résolution de se défaire de sa femme. Le crime résolu, il est clair que le comte a dû réfléchir et chercher les moyens de le commettre impunément, peser les conséquences et évaluer les périls de l'entreprise. Nous devons admettre encore que les événements qui le conduisaient à cette extrémité étaient tels qu'il dut craindre d'être inquiété et redouter des recherches ultérieures, même dans le cas où sa femme serait morte naturellement. Voilà la vérité, approuva le juge de paix. Monsieur de Trémorel s'est donc arrêté au parti de tuer sa femme, brutalement, à coups de couteau, avec l'idée de disposer les choses de façon à faire croire que lui aussi avait été assassiné. Décidé à tout entreprendre pour laisser les soupçons planer sur un innocent, ou du moins, sur un complice infiniment moins coupable que lui. Il se résignait d'avance en adoptant ce système à disparaître, à fuir, à se cacher, à changer de personnalité, à supprimer en un mot le comte Hector de Trémorel pour se refaire sous un autre nom, un nouvel état civil. Ces prémices fort admissibles suffisent à expliquer toute une série de circonstances inconciliables au premier abord. Elle nous explique d'abord comment, la nuit du crime, précisément, il y avait au Valfeuillu toute une fortune. Et cette particularité me paraît décisive. En effet, lorsqu'on reçoit pour les garder chez soi des valeurs importantes, on le dissimule d'ordinaire autant que possible. Monsieur de Trémorel n'a pas cette prudence élémentaire. Il montre à tous ses liasses de billets de banque, il les manie, il les étale, les domestiques les voient, les touchent presque. Il veut que tout le monde sache bien et puisse répéter qu'il a chez lui des sommes considérables, faciles à prendre, à emporter, à cacher. Et quel moment choisit-il pour cet étalage imprudent en toute occasion? Le moment juste où il sait, où chacun sait dans le voisinage qu'il passera la nuit seul au château avec Madame de Trémorel. Car il n'ignore pas que tous ses domestiques sont conviés pour le 8 juillet au soir au mariage de l'ancienne cuisinière Madame Denis. Il ignore si peu que c'est lui qui fait les frais de la noce et que lui-même a fixé le jour lorsque Madame Denis est venue présenter à ses anciens maîtres son futur mari. Vous me direz peut-être que c'est par hasard que cette somme, qu'une des femmes de chambre qualifiait d'immense, a été envoyée au Valfeuillu précisément la veille du crime. À la rigueur, on peut l'admettre. Cependant, croyez-moi, il n'y a pas là de hasard et je le prouverai. Demain, nous nous présenterons chez le banquier de Monsieur de Trémorel et nous lui demanderons si le comte ne l'a pas prié, par écrit ou verbalement, de lui envoyer les fonds ce jour du 8 juillet fixe. Or, messieurs, si ce banquier nous répond affirmativement, s'il nous montre une lettre, s'il nous donne sa parole d'honneur que l'argent lui a été demandé de vive voix, j'aurai, avouez-le, plus qu'une probabilité en faveur de mon système. » Le père Plantat et le docteur hochèrent la tête en signe d'assentiment. « Donc, demanda l'homme de la préfecture, jusqu'ici, pas d'objection ?»« Pas la moindre, répondit le juge de paix. « Mes préliminaires, poursuivit M. Lecoq, ont encore l'avantage d'éclairer la situation de Guespin. Disons-le franchement, son attitude est louche et justifie amplement son arrestation. A-t-il trempé dans le crime ? Est-il totalement innocent ? Voilà ce que nous ne pouvons décider, car je ne vois nul indice qui nous guide. Ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé dans un piège habilement tendu. Le comte, en le choisissant pour victime, a fort bien pris ses mesures pour faire peser sur lui tous les doutes d'une enquête superficielle. Je gagerais que M. de Trémorel, connaissant la vie de ce malheureux, a pensé, non sans motif, que les antécédents ajouteraient à la vraisemblance de l'accusation et pèseraient d'un poids terrible dans les balances de la justice. Peut-être aussi, se disait-il, que Guespin s'en tirerait infailliblement, et ne voulait-il que gagner du temps et éviter des recherches immédiates en donnant le change. Nous, investigateurs soucieux de détails, nous ne pouvons être trompés. Nous savons que la comtesse est morte d'un coup, du premier, comme foudroyée. Donc elle n'a pas lutté, donc elle n'a pas pu arracher un lambeau d'étoffe aux vêtements de l'assassin. Admettre la culpabilité de Guespin, c'est admettre qu'il a été assez fou pour aller placer un morceau de sa veste dans la main de sa victime. C'est admettre qu'il a été assez simple pour aller jeter cette veste déchirée et pleine de sang dans la Seine, du haut du pont, dans un endroit où il devait bien penser qu'on ferait des recherches. Et cela, sans prendre même la vulgaire précaution d'y attacher une pierre pour la maintenir au fond de l'eau. Ce serait absurde. Donc pour moi, ce lambeau de drap, cette veste sanglante, affirme et l'innocence de Guespin et la scélératesse du comte de Trémorel. Cependant, objecta M. Gendron, si Guespin est innocent, que ne parle-t-il ? Que n'invoque-t-il un alibi ? Où a-t-il passé la nuit ? Pourquoi avait-il de l'argent plein son porte-monnaie ? Remarquez, monsieur, répondit l'agent de la sûreté, que je ne dis pas qu'il est innocent. Nous en sommes encore aux probabilités. Ne peut-on pas supposer que le comte de Trémorel, assez perfide pour tendre un piège à son domestique, a été assez habile pour lui enlever tout moyen de fournir un alibi ? Mais vous-même, insista le docteur, vous niez l'habileté du comte. Pardon, monsieur, entendons-nous. Le plan de monsieur de Trémorel était excellent et annonce une perversité supérieure. L'exécution seule a été défectueuse. C'est que le plan avait été conçu et mûri en sûreté et qu'une fois le crime commis, l'assassin, troublé, épouvanté du danger, a perdu son sang-froid et n'a réalisé ses conceptions qu'à demi. Mais il est d'autres suppositions.
On peut se demander si, pendant qu'on assassinait la comtesse de Valfeuillu, Guespin ne commettait pas ailleurs un autre crime. Cette hypothèse parut au docteur Gendron si invraisemblable qu'il ne put s'empêcher de protester. « Oh ! » fit-il. « N'oubliez pas, messieurs, répliqua Lecoq, que le champ des conjectures n'a pas de bornes. Imaginez telle complication d'événements que vous voudrez, je suis prêt à soutenir que cette complication s'est présentée ou se présentera. Est-ce que Lieuben, un maniaque allemand, n'avait pas parié qu'il parviendrait à retourner un jeu de cartes dans un ordre indiqué par le procès-verbal du pari ? Pendant 20 ans, 10 heures par jour, il a battu, tourné, rebattu et retourné ses cartes. Il avait de son aveu répété son opération 4 246 028 fois lorsqu'il gagna. Monsieur Lecoq allait peut-être continuer ses citations. Le père Plantin l'interrompit d'un geste. « J'admets, dit-il, vos préliminaires. Je les tiens pour plus que probables, pour vrai. » Monsieur Lecoq parlait alors en se promenant de long en large, de la fenêtre au rayon de la bibliothèque, s'arrêtant aux paroles décisives, comme un général qui dicte à ses aides de camp le plan de bataille du lendemain. Et les auditeurs s'émerveillaient à le voir et à l'entendre. Pour la troisième fois depuis le matin, il se révélait à eux sous un aspect absolument différent. Ce n'était plus ni le mercier retiré de la perquisition, ni le policier cynique et sentimental de la biographie. C'était à nouveau Lecoq à la physionomie digne, à l'œil pétillant d'intelligence, au langage clair et concis. Le Lecoq, enfin, que connaissent les magistrats qui ont utilisé le génie investigateur de ce remarquable agent. Depuis longtemps, il avait rentré la bonbonnière à portrait, et il n'était plus question des carrés de pâtes qui, pour employer une expression à son vocabulaire, constituent un des accessoires de sa physionomie de province. « Maintenant, disait l'agent de la sûreté, écoutez-moi. Il est 10 heures du soir. Nul bruit au dehors. Le chemin est désert. Les lumières d'Orcival s'éteignent. Les domestiques du château sont à Paris. Monsieur et Madame de Trémorel sont seuls au Valfeuillu. Ils se sont retirés dans leur chambre à coucher. La comtesse est assise devant la table sur laquelle est servi le thé. Le comte, tout en causant avec elle, va et vient par la chambre. Madame de Trémorel est sans pressentiment. Son mari, depuis plusieurs jours, n'est-il pas plus aimable, meilleur qu'il n'a jamais été ? Elle est sans défiance, et ainsi le comte peut s'approcher d'elle, par derrière, sans que l'idée lui vienne de retourner la tête. Si elle l'entend venir ainsi, doucement, elle s'imagine qu'il veut la surprendre par un baiser. Lui, cependant, armé d'un long poignard, est debout près de sa femme. Il sait où il faut frapper pour que la blessure soit mortelle. De l'œil, il choisit sa place, il l'a trouvée. Il frappe un coup terrible, si terrible que la garde du poignard a laissé son empreinte des deux côtés des lèvres de la plaie. La comtesse tombe sans pousser un cri, heurtant son front à l'angle de la table qui se renverse. Est-ce qu'ainsi ne s'explique pas la position de la terrible blessure au-dessous de l'épaule gauche, blessure presque verticale, dont la direction est de droite à gauche ? Le docteur fait un signe d'approbation. Et quel autre homme que l'amant ou le mari d'une femme peut aller et venir dans sa chambre à coucher, s'approcher d'elle quand elle est assise, sans qu'elle se retourne ? C'est évident, murmura le père Plantin. C'est évident. « Voilà donc, poursuivit Monsieur Lecoq, voilà la comtesse morte. Le premier sentiment de l'assassin est un sentiment de triomphe, enfin. Le voilà débarrassé de cette femme qui était la sienne, qu'il a assez haï pour se résoudre à un crime, pour se décider à changer son existence heureuse, splendide, enviée, contre la vie épouvantable du scélérat désormais sans patrie, sans amis, sans asile, proscrit par toutes les civilisations, traqué par toutes les polices, puni par les lois du monde entier. Sa seconde pensée est pour cette lettre, ce papier, cet acte, ce titre, cet objet d'un mince volume qu'il sait en la possession de sa femme, qu'il a demandé 100 fois, qu'elle n'a pas voulu lui remettre, et qu'il lui faut. Ajoutez, interrompit le père Plantat, que ce titre a été un des mobiles du crime. Cet acte si important. Le comte s'imagine savoir où il est. Il croit que du premier coup, il va mettre la main dessus. Il se trompe. Il cherche dans tous les meubles, à l'usage de sa femme, il ne trouve rien. Il fouille les tiroirs, il soulève les marbres, il bouleverse tout dans la chambre, rien. Alors, une idée lui vient. Cette lettre ne serait-elle pas sous la tablette de la cheminée? D'un revers de bras, il jette bas la garniture. La pendule tombée s'arrête. Il n'est pas encore 10h30. « Oui, fit à demi-voix le docteur Gendron, la pendule nous l'a dit. » Sous la tablette de la cheminée, poursuivait l'agent de la sûreté, le comte ne trouve rien encore que de la poussière qui a gardé les traces de ses doigts. Alors, l'assassin commence à se troubler. Ce papier si précieux que, pour sa possession, il risque sa vie, où peut-il être? Sa colère s'allume. Comment visiter les tiroirs fermés? Les clés sont sur le tapis où je les ai retrouvées parmi les débris du service de thé. Il ne les aperçoit pas. Il lui faut une arme, un outil pour tout briser. Il descend chercher une hache. Dans l'escalier, l'ivresse du sang, de la vengeance, se dissipe, ses terreurs commencent. Tous les recoins obscurs se peuplent de ces spectres qui font cortège aux assassins. Il a peur, il se hâte. Il ne tarde pas à remonter et, armé d'une hache énorme, la hache retrouvée au second étage, il fait tout voler en éclats autour de lui. Il va comme un insensé, c'est au hasard qu'il éventre les meubles, mais parmi les débris, il poursuit les recherches acharnées dont j'ai suivi la trace. Rien, toujours rien. Tout est sans dessus-dessous dans la chambre. Il passe dans son cabinet et la destruction continue. La hache se lève et s'abat sans relâche. Il brise son propre bureau, non qu'il n'en connaisse tous les tiroirs, mais parce qu'il peut s'y trouver quelques cachettes ignorées. Ce bureau, ce n'est pas lui qui l'a acheté. Il a appartenu au premier mari, à Sauvrecy. Tous les livres de la bibliothèque, il les prend un à un, les secoue furieusement et les lance par la chambre. L'infernale lettre est introuvable. Son trouble désormais est trop grand pour qu'il puisse apporter à ses perquisitions la moindre méthode. Sa raison obscurcie ne le guide plus. Il erre sans raison déterminante, sans calcul, d'un meuble à l'autre, fouillant à 10 reprises les mêmes tiroirs pendant qu'il en est tout près, à côté, qu'il oublie complètement. C'est alors qu'il songe que cet acte qui le perd peut avoir été caché parmi le crin de quelques sièges. Il décroche une épée et, pour sonder exactement, il hache le velours des fauteuils, des canapés, du salon et d'autres pièces. La voix de M. Lecoq, son accent, son geste, donnait à son récit un caractère saisissant. Il semblait qu'on vit le crime, qu'on assistât aux scènes terribles qu'il décrivait. Ses auditeurs retenaient leur souffle, évitant même un geste approbateur qui eût pu distraire son attention. À ce moment, poursuivit l'agent de la sûreté, la rage et l'effroi du comte de Trémorel étaient au comble. Il s'était dit, lorsqu'il préméditait le crime, qu'il tuerait sa femme, qu'il s'emparerait de la lettre, qu'il exécuterait bien vite son plan si perfide et qu'il fuirait. Et voilà que tous ses projets étaient déconcertés. Que de temps perdu lorsque chaque minute envolée emportait une chance de salut. Puis la probabilité de 1000 dangers auxquels il n'avait pas réfléchi se présentait à son esprit. Pourquoi un ami ne viendrait-il pas lui demander l'hospitalité comme cela a été arrivé 20 fois? Que penserait un passant arrêté sur la route de cette lumière affolée courant de pièce en pièce? Un des domestiques ne pouvait-il revenir? Une fois dans le salon, il croit qu'on sonne à la grille, et telle est sa terreur que la bougie qu'il tient à la main lui échappe, et que moi, j'ai retrouvé sur le tapis la marque de cette bougie tombée. Il entend des bruits étranges, tels que jamais pareils n'ont frappé à ses oreilles. Il lui semble qu'on marche dans la pièce voisine, le parquet craque. Sa femme est-elle vraiment morte? L'a-t-il bien tuée? Ne va-t-elle pas se lever tout à coup, courir à la fenêtre, appeler au secours? C'est obsédé de ses épouvantements qu'il revient à la chambre à coucher. qu'il reprend son poignard et qu'il frappe de nouveau le cadavre de la comtesse. Mais sa main est si peu assurée qu'il n'en fait que des blessures légères. Vous l'avez remarqué, docteur, et consigné sur votre projet de rapport, toutes ces blessures ont la même direction. Elles forment avec le corps un angle droit qui prouve que la victime était couchée lorsqu'on la hachait ainsi. Puis, dans l'emportement de sa frénésie, la misérable foule aux pieds le corps de cette femme assassinée par lui et les talons de ses bottes lui font ces contusions sans ecchymose relevées par l'autopsie. Monsieur Lecoq s'arrêta pour reprendre haleine. Il ne racontait pas seulement le drame, il le mimait, il le jouait, ajoutant l'ascendant du geste à l'empire de la parole et chacune de ses phrases reconstituant une scène, expliquer un fait et dissiper un doute, comme tous les artistes de génie qui s'incarnent vraiment dans le personnage qu'ils représentent. L'agent de la sûreté ressentait réellement quelque chose des sensations qu'il traduisait, et son masque mobile avait alors une effrayante expression. « Voici donc, reprit-il, la première partie du drame. » Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.